Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you.
Dieu, ma prière en ce jour, c'est que tu viennes à notre secours et que tu viennes à notre aide et que tu viennes à mon aide, Seigneur, particulièrement pour partager ce message que tu as déposé sur mon cœur. Je prie vraiment, mon Dieu, mon Seigneur, que tu sois mon secours et que tu viennes parler à ton peuple. Seigneur, sois celui qui parle, sois celui qui conduit, sois celui qui dirige, sois celui qui fasse du bien au cœur en ce jour. Que ton nom soit loué et béni. Amen. J'aimerais commencer ce culte par une question, toute simple question: qui est Jephté? Je vous pose la question parce que je veux une réponse. Est-ce que vous savez qui est Jephté? Alors, il faut parler plus fort. Quelqu'un a une idée de qui est Jephté? Bon, allez, je vais inventer vos réponses. Un juge, oui. Mais encore. Un juge qui a fait un vœu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce vœu? Ouais. C'est quoi, ce vœu? Sa fille. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à Jephté, c'est sans doute l'une des premières choses qui nous viennent à l'esprit. Le fait que Jephté ait fait un vœu fou. Celui de dire à l'Éternel que si, Éternel, tu me rends vainqueur, contrairement, alors je te consacrerai la première personne qui viendra à moi. Et la suite, c'est la consacrer et la mettre en holocauste. C'est ce qu'il est dit. Et la première chose qui est arrivée, ou la première personne qui est arrivée à Jephté, lors de son retour de bataille victorieux, c'est sa propre fille, son unique fille. Et Jephté n'a pas souhaité abandonner son vœu, et il est allé au bout de son vœu. Jephté a pris sa fille, l'a égorgée, l'a posée sur l'Holocauste, a brûlé le corps de sa fille. Et quand on pense à ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut penser d'autre de Jephté? Et puis ceux qui connaissent l'histoire de Jephté, je suis persuadé que quand j'ai mentionné qui est Jephté, c'est la première chose qui vous est venue en tête. Difficile de décrocher de cet élément, et je suis convaincu d'une chose, c'est que quand Jephté a regardé à sa vie, la seule chose qu'il pouvait voir de sa vie, c'est ça. Cette tâche indélébile, cette horreur, ce sacrifice, ce vœu stupide. Et je dis vœu stupide parce que Dieu ne lui a jamais demandé de faire ça. C'est de son initiative qu'il l'a faite. Et quand on pense à Jephté, on pense à ça. Quand Jephté regardait sans doute à sa vie, il ne voyait plus que ça. Seulement, vous voyez, il y a une chose qui est remarquable. C'est que quand on lit les Écritures, on a un tout autre regard de Jephté. Prenons l'exemple de ces textes, Juges chapitre 11, verset 1er. La première des choses qui nous est dite de Jephté, Jephté était d'un vaillant héros. Et là, on se dit, est-ce que l'auteur a oublié un petit détail ? Le vaillant héros a sacrifié sa fille. Vraiment ! Parce que quand on est parent, vous savez, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est une chose qu'on ne peut pas, à laquelle on... C'est juste impossible de décrocher de ça. Pourtant, le livre des juges, celui qui a écrit les livres des juges, on pense que c'est Samuel, ce que Samuel met en avant, ce n'est pas celui qui a sacrifié sa fille, mais il met en avant le vaillant héros. Prenons Hébreux, chapitre 11, verset 32. Et là, on pourrait se dire, est-ce que quelqu'un va bien parler de Jephté ? Et peut-être on se dit, ce texte va mettre en avant le fait que Jephté a éventuellement sacrifié sa fille. Non ! Le contexte d'Hébreux, chapitre 11, vous le connaissez. C'est quoi ? C'est les héros de la foi. Et là, on est encore plus perturbé. On se dit, finalement, tous les auteurs des Écritures ont eu une amnésie globale, collective, et ils ont oublié ce détail, qui n'en est pas un. Ou alors, on pourrait se dire que c'est un peu le reflet de ce que Dieu voit en nous. Qu'est-ce que Dieu voit en nous ? Est-ce qu'il voit nos casseroles ? Est-ce qu'il voit notre passé, nos fautes, nos transgressions, nos erreurs ? Ça, c'est les hommes qui le voient. Et vous savez, quand je vous pose la question, finalement, effectivement, l'homme voit la chose terrible, mais Dieu, lui, il voit le vaillant héros. Dieu, lui, il voit le héros de la foi. Et c'est ce que j'aime dans la personne de Dieu, parce que quand il me regarde, il ne voit pas ce que j'étais, mais il voit Jésus en moi. Et pour Jephté, c'est un peu la même chose. Aussi tragique, aussi terrible, aussi horrible qu'a pu être cette décision, ce choix, ce vœu, des milliers d'années plus tard, le livre des Hébreux voit en Jephté un héros de la foi. Prenez le texte, c'est intéressant. On va reprendre le texte, merci. Ce que je dirais encore, que dirais-je encore ? C'est le livre d'Hébreux qui dit ça. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Et là on dit Amen, merci Seigneur pour tous ces hommes de foi. Et puis, Jephté. Et puis il poursuit de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, atteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur propre maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est à ce rang-là que Dieu voit Jephté. C'est ce que Dieu voit en nous, mes frères et sœurs. Maintenant, et c'est ce qui me semble pertinent ce matin, c'est d'approfondir qui est réellement Jephté. Si nous en avons une idée, et cette idée est faussée par le fait que nous savons ce que Jephté va faire, ce vœu stupide. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit en Jephté pour dire de lui qu'il est un vaillant héros ? Qu'est-ce que Dieu voit en Jephté pour dire qu'il est ce héros de la foi ? Et pour nous, ce qui est pertinent vraiment ce matin, c'est de voir qui est véritablement Jephté pour comprendre ce que les Écritures veulent dire quand ils parlent de lui comme un homme de foi, quand ils parlent de lui comme un vaillant guerrier. Parce que notre histoire ne se limite pas à notre erreur, ou nos erreurs. Vous avez vu comme une erreur dans une vie peut éclipser tout le reste. Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est le cas de Jephté. Jephté ne se résume pas au sacrifice de sa fille. La vie de Jephté est bien plus que ça. Et vraiment, ce matin, je voudrais ouvrir le champ de notre perception de qui est Jephté. Je voudrais qu'à un moment donné, dans notre perception de qui a été cet homme, nous puissions comprendre réellement qui il a été pour dire oui, en effet, Jephté était un vaillant héros. Oui, évidemment, Jephté était cet homme de foi. Alors pour ça, il faut aller à sa rencontre. Juges, chapitre 11, verset 1er. Vous voulez bien faire la lecture avec moi ? Pendant quelques instants. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros, nous l'avons déjà dit. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephté. La femme de Galad la femme légitime, et pas la prostituée de Galade, fit, lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté et il faisait avec lui des excursions. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephté répondit aux anciens de Galade, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galade dirent à Jephté, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. » Jephté répondit aux anciens de Galade, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galade dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephté partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établirent comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. L'histoire de Jephté débute mal. A priori, et c'est ce que nous dit le texte, nous comprenons, et c'est l'une des premières choses qui nous est dite, certes, Jephté était un vaillant guerrier, mais l'une des premières choses que l'on apprend sur lui, c'est sa naissance. Et en effet, le texte est plutôt clair, il nous est dit que Jephté était le fils d'une prostituée. Aussi, dans la jeunesse de Jephté, et si je devais résumer la vie de Jephté, je dirais que dans sa jeunesse, et quelques temps après, je pourrais décrire que Jephté a vécu deux phases de rejet. La première phase de rejet est liée à sa naissance, dans son contexte familial. On sait très peu de choses sur sa vie, par contre, ce que l'on voit très clairement, c'est que Jephté va grandir dans la maison de son père. On ne sait pas ce que va devenir sa mère. Bien des commentaires justifient ou expliquent le fait que peut-être c'est une interprétation de voir en la mère de Jephté une prostituée. Certains y voyaient une interprétation du fait que cette maman était probablement une fille, une femme de Canaan. Cela dit, le problème n'est pas là dans la vie de Jephté. C'est que Jephté va grandir dans une famille où il pouvait être considéré, excusez-moi le terme, comme un bâtard. Un fils illégitime. Et c'est dans ce contexte-là que Jephté va grandir. Il va grandir dans une famille. Son père va le récupérer, son père va l'élever. Jephté va apprendre à respecter, à connaître l'Éternel. On le lit. Lorsqu'on lit la parole, l'un des premiers à parler de l'Éternel, c'est lui. Alors que les anciens de Galade viennent à lui, c'est lui qui leur dit « Si l'Éternel me donne d'être vainqueur sur Ammon, alors je serai votre chef. » C'est lui qui en parle. Jephté a grandi dans la connaissance de l'Éternel, mais Jephté aussi a grandi dans une famille où il était un bâtard. Son père, probablement, s'est marié par la suite. Jephté est né, son père s'est marié, et cette fois-ci a eu un mariage légitime. Et c'est ce qui nous est dit dans le texte. Le texte dit que la femme de Galade, le père de Jephté, a eu des fils. Pas évident de grandir dans une famille lorsqu'on est un bâtard. Et personnellement, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais combien ça a pu être difficile? Parce que vous savez, les enfants, si au départ, les choses se passent plutôt pas mal, ils ne font pas forcément de distinction. Mais déjà, la mère légitime. J'imagine cette femme vivre avec ce garçon qui n'était pas son fils. Et on sait que ça ne se passe pas bien. Les Écritures nous rappellent qu'on a plusieurs exemples. On a Abraham qui va se retrouver avec deux fils sous sa même tente, un fils légitime et un fils un peu moins. Et on sait toutes les tensions que ça a produit à l'intérieur de la maison, au point que cet enfant, Ismaël, va être chassé. Et pendant des années, Jephté a vécu dans la tente, dans la maison de son père, avec une belle-mère et des fils qui au fur et à mesure du temps vont comprendre que Jephté est différent d'eux. Et vous savez, les enfants ne sont pas tendres entre eux. Même, je pourrais dire, ils sont cruels. Vous savez, on en vient rapidement à des paroles qui sont blessantes, directes et franches. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'autre, tout à fait, ben toi d'abord, tu n'es pas mon frère. Vous connaissez ça ? Toi d'abord, t'es le fils d'une prostituée. Ça, c'est un peu plus tard. Mais il est évident que Jephté, dans sa famille, a vécu ce rejet. Le fait de ne pas être à sa place, le fait de ne pas trouver sa place légitime dans la famille. Certes, le père était là et assumait le fait que son fils était dans sa maison, mais les autres ne l'assumaient pas et ne l'ont jamais assumé. Le rejet. Jephté, à partir du moment où il a mis le pied sur terre, il a grandi dans cette famille, était considéré comme un rejeté. Il n'a jamais trouvé sa place dans la maison de son père. Son père assumait sa responsabilité. Il l'a pris sous sa protection. Pour autant, je suis convaincu d'une chose, c'est que Jephté a souffert toute son enfance. Jusqu'au jour, et c'est ce que dit le texte, jusqu'au jour où Jephté, où les frères, ses frères ont grandi. Et la Bible dit, le jour où ses frères ont grandi, ils l'ont chassé et ils lui ont dit, tu n'auras point de part dans l'héritage de notre père. Voilà ce que dit les Écritures. Permettez-moi d'extrapoler ou d'apporter une interprétation à ce texte. Deux choses m'amènent à penser qu'à ce moment-là précis où les frères vont venir voir Jephté pour le chasser, et c'est ce que je vais appeler le deuxième rejet, le père de Jephté est mort. Les deux raisons qui m'amènent à penser cela, le texte ne le dit pas, mais permettez-moi cette interprétation, c'est que d'une part, les frères de Jephté parlent d'héritage. Difficile de parler d'héritage quand celui qu'il possède est encore vivant. Vous êtes d'accord avec moi ? Or, les frères vont venir sur ce terrain de discussion et vont dire à Jephté, il n'y a point de part pour toi dans la maison de mon père, il n'y a point d'héritage pour toi dans cette maison parce que tu es fils d'une étrangère. La deuxième chose qui m'amène à penser, c'est qu'il ne se serait jamais permis de chasser Jephté si le père Galaad était encore à la maison. Si le père de Jephté était encore là, il ne se serait jamais permis de porter la main sur Jephté. Or, on se rend bien compte que le mot qui est employé est un mot fort, c'est « chasser ». Ils vont chasser Jephté. Enfin, troisième argument qui m'amène à penser que le père de Jephté est mort à ce moment-là, c'est qu'on ne parle plus du tout de lui. Il a disparu. Et quel père pourrait laisser partir son fils ? Quel père pourrait laisser ses fils se battre de cette façon ou rejeter un d'entre eux ? Je pense que le père de Jephté n'étant plus là, Jephté n'est plus protégé. Alors du coup, les fils légitimes en ont profité. Ils ont chassé Jephté. Et pour moi, cette étape-là est d'une violence inouïe. Lorsque je lisais ce texte, comprenez, ce sont ses frères et ils vont le chasser. Lorsque je prends le texte, je creuse le texte, je me dis, mais à l'époque, ils ne chassaient pas les gens de cette façon-là, ils ne lui disaient pas de partir. Non. Certainement que ça a dû être d'une violence, au point que le texte va dire que la seule chose que Jephté a trouvé à faire, il s'enfuit. Vous vous enfuyez pas sans raison, mes amis. Le problème, et je le crois, c'est que les frères de Jephté sont arrivés à un point où comment éliminer leur frère, comment le faire disparaître ? Parce que vous savez, il y avait des enjeux. Jephté était peut-être l'aîné de la famille, mais il n'était pas l'aîné légitime. Et quand arrivent les questions d'héritage, les requins viennent aussi. Ouais, hein ? Et là, pour le coup, dans la vie de Jephté, c'est ce qui s'est passé. Le père est mort, il y a un héritage à avoir, il y a quelque chose à se partager. Qu'est-ce que font les fils légitimes ? Virons l'aîné, il a la double part. Et récupérons-la. Aussi, qu'est-ce qui va se passer pour Jephté ? Deuxième véritable rejet. Le premier rejet était un rejet quotidien, constant, latent, présent chaque jour, par une petite parole blessante, rappelant qui il était. Tu es le fils bâtard de la famille. Tu n'as pas de légitimité au milieu de nous. Le deuxième rejet est beaucoup plus direct, beaucoup plus violent et amène Jephté à fuir. Aujourd'hui, on étudie de plus en plus les conséquences que peuvent avoir le rejet dans les vies. Et au nombre de celles-ci, on pourrait parler le manque de confiance en soi. On pourrait dire, mais finalement, Jephté, dans quel état il est ? Le manque de confiance en soi, il y a aussi le fait de s'isoler, difficulté avec la société, difficulté à se bâtir, difficulté à se construire, difficulté à envisager un avenir, difficulté à avancer. Toutes ces listes de problèmes, nous pourrions éventuellement les retrouver chez Jephté. Et quand j'ai lu ce texte et quand j'ai compris ce que Jephté avait subi, le deuxième assaut, la deuxième attaque que sa famille va proférer contre lui, je me suis dit, mais dans quel état allait être Jephté ? Comment Jephté allait pouvoir se bâtir, rejeter de sa propre famille, rejeter des siens, abandonner tous ? Et vous savez, dans cette situation-là, c'est clair, quand Jephté s'en va, il part avec rien, il n'a rien avec lui, il sait pas où aller, sa famille, elle est là, non, elle n'en veut plus. Il n'est pas vraiment d'Israël, il n'est pas vraiment de Canaan. Où est votre place ? Jephté s'en va et je me suis dit, mais pauvre homme, dans quel état devait-il être ? Dans quel état spirituel, moral devait-il être ? Lorsqu'il va finir par partir de chez lui, chassé, obligé de s'enfuir parce que ses frères cherchent à attenter à sa vie. Disons les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'il le chasse, ce n'est pas avec des paroles. Lorsqu'il le chasse, il le maltraite et il l'oblige à partir. Au point que la seule solution pour lui pour survivre, c'est s'enfuir. Comment un homme peut se bâtir ? Comment un homme peut construire sa vie lorsqu'il a vécu ça, rejeter des siens ? Alors je me suis dit, comment Jephté va s'en sortir ? Qu'est-ce que devenu Jephté ? Le texte nous le dit. Si on peut afficher le texte, ça serait bien. Juges chapitre 11, verset 3. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, et ils faisaient avec lui des excursions. Lorsque je lis ce texte, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelqu'un de désespéré, d'anéanti, de brisé. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un qui a pris sa vie en main. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un qui a attiré des gens à lui. Oh, des gens de rien, certes. J'ai pas le sentiment d'avoir quelqu'un qui a un problème d'estime de soi. Il est devenu chef. Alors, d'un groupe de gens particuliers, certes, mais qu'il dirige, qu'il mène au combat, avec lesquels il fait des excursions et avec lesquels il remporte des batailles. Et vous savez, il y a ce paradoxe, lorsque je regarde ce texte, je me dis, waouh, Jephté, rejeté de multiples fois, et je retrouve un Jephté, plutôt bien installé, plutôt conquérant, pas forcément avec un manque de confiance en lui, au contrôle d'une petite armée, avec laquelle il remporte des victoires, à tel point que les anciens de sa propre tribu ont entendu parler de lui. Hey, c'est Jephté qui remporte des victoires. C'est Jephté qui fait des excursions à tel point qu'ils vont aller le chercher quelques versets plus loin. Le paradoxe est là. Comment expliquer Jephté ? Comment expliquer un Jephté rejeté et quelques versets plus loin, on a un Jephté conquérant ? C'est paradoxal, n'est-ce pas ? On pourrait voir là-dedans quelque chose de bizarre, d'anormal. Mais très honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de surprenant avec Dieu ? Parce que Dieu est dans l'histoire, parce que Dieu fait d'un rejeté un conquérant. Parce que Dieu peut faire d'un rejeté un choisi. Et moi, c'est ce que j'aime dans la personne de Dieu. Et c'est ce que je vois dans le personnage de Jephté. Aussi troublant que puisse être le changement, aussi troublant de passer du rejeté à celui qui est conquérant, c'est ce que Jephté va vivre. Alors du coup, toute ma perception de l'histoire de Jephté était bousculé parce que je me suis dit, mais comment on arrive là ? Comment on passe d'un Jephté rejeté, abandonné tous, un Jephté conquérant, sûr de lui, partant à la guerre ? Le Seigneur m'a dit, il y a un détail que tu n'as pas saisi. Le deuxième rejet. Le jour où ses frères sont venus voir Jephté pour le chasser, ce jour-là, c'est le jour où l'Éternel a sauvé Jephté. Ma perception de ce rendez-vous, ma perception de cette situation était faussée par la violence de ce jour-là où les frères de Jephté ont chassé Jephté. Mais quand j'ai compris ce que Dieu a fait ce jour-là, parce que Dieu s'est servi de ce deuxième rejet pour sauver Jephté. Oh. Difficile de dire amen à ça. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Comprenez, Jephté avait besoin de sortir de son contexte familial pour devenir le guerrier qu'il allait être. Et c'est à ce prix que Jephté est devenu le vaillant guerrier. Jephté a été sauvé le jour où Dieu a permis qu'il soit chassé de sa famille. Et des fois on dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu permets le rejet? Pourquoi tu permets que cette porte se ferme? Pourquoi tu permets... Dieu est en train de te sauver. Dieu est en train de te sauver. Si ta vie est entre les mains de Dieu, Dieu est en train de sauver. Il est en train d'éviter une situation catastrophique. Et permettez-moi de développer ça, parce que ce matin, je pourrais dire bien des choses là-dessus. Mais le fait que Jephté ait été rejeté, Dieu a sauvé Jephté d'un contexte familial toxique qui allait le détruire. Jephté a grandi dans une famille où on le considérait comme un bâtard. Jephté a grandi dans une famille où il n'avait pas de place. Et c'était quotidiennement que Jephté entendait ça. Oh, ça a pris un climat, ça arrivait à un moment donné, à un maximum, où ses frères sont venus, mais l'agonie, la souffrance de Jephté était continue. Et Jephté a grandi là-dedans, il n'a pas connu autre chose que ça. Et vous savez, quand on ne connaît pas autre chose, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a meilleur. C'est notre univers, c'est là-dedans qu'on a vécu, c'est là-dedans qu'on a grandi. Mais c'est une fois sorti qu'on respire. Seulement faut-il pouvoir le faire, mes amis. Jephté a grandi là-dedans. Et il a fallu que Dieu permette des circonstances pour que Jephté soit chassé de sa famille. Et vous savez ce que va faire Jephté? Si on peut afficher le texte. Jephté va faire une chose. Verset 3, « Et Jephté s'enfuit, notez bien tout ça, loin de ses frères. » Jephté grandit dans une atmosphère de rejet continuel. Ok, Dieu permet qu'au travers de circonstances, ses frères le chassent. Ok, que fait Jephté? Il fuit. Très bien, mais il fuit comment? Loin de ses frères. Et là, c'est une des premières clés de compréhension du rétablissement de Jephté. Parce que l'idée qui est associée de ça, dans ça, et je voudrais vraiment communiquer ça ce matin, c'est que lorsqu'on est dans le rejet, il faut en sortir, mes amis. Lorsqu'on vit dans le rejet, il faut en sortir. Et je veux dire, pas simplement en sortir de manière minimaliste. Jephté, quand il va s'enfuir, il va partir loin de ses frères. La bonne question que je pourrais poser ce matin, si tu vis le rejet au quotidien, si tu vis le rejet tous les jours, est-ce que tu es prêt à partir? Parce qu'autrement, ça va te tuer. Parce qu'autrement, ça va anéantir ta vie, ce que Dieu a investi en toi. Le rejet est destructeur, il est toxique pour ta santé spirituelle. Et ce que j'aime dans l'attitude de Jephté, c'est qu'il a mis suffisamment de distance avec sa famille pour que le rejet ne le rattrape jamais. Ouais, il partit loin de ses frères, il fuit loin de ses frères. Et c'est une chose importante pour passer un cap dans notre vie spirituelle lorsqu'on vit le rejet. Il faut prendre la décision de fuir. Fuis, laisse le rejet loin de toi. Autant celui qui peut avoir des répercussions après que celui que tu vis au quotidien. Et Jephté a pris, ça fait ce choix. Il n'a pas vraiment forcément eu le choix parce qu'il a dû fuir. Mais là où je trouve qu'il a eu fait un choix judicieux, c'est de partir loin d'eux. Si tu fuis le rejet, sois bien sûr qu'il ne te rattrape jamais. Ni physiquement, ni dans ta tête, ni dans ton esprit. Il y a une position à prendre ce matin par rapport au rejet, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aux situations qui ont pu être décrites. c'est de te mettre à distance de celui-ci. Car il est toxique pour toi, comme il pouvait être toxique pour Jephté. Et ce que Dieu a permis ce jour-là, c'est de le chasser afin que Jephté fuit. Fuiras-tu ? Je pose la question parce que la fuite de Jephté a été compliquée. Jephté n'est pas parti tout seul. Lorsque je lis le texte, et vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'on lit le texte, il a fallu que ses frères le chassent pour qu'il parte. Je me suis souvent dit, mais pourquoi Jephté restait ? Pourquoi Jephté est encore resté ? Pourquoi il n'est pas parti quand son père est décédé ? Pourquoi il n'a pas fait le choix de tout quitter et de recommencer sa vie ? Deuxième point. Ça va s'afficher. L'une des situations où il était Dieu l'a sauvé d'une situation où il ne pouvait se sortir lui-même. Verset 2, lisez avec moi. Tu n'hériteras pas, voici ce que les frères vont dire à Jephté, tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Des fois, on a du mal à partir, malgré le contexte toxique, parce qu'on a un intérêt à y être. Jephté avait un intérêt à y être, l'héritage. Oh, par moments, ça peut être un héritage. Par moments, ça peut être des sentiments. Par moments, ça peut être un intérêt particulier, un avantage que tu peux avoir, qui fait que tu supportes le contexte toxique dans lequel tu es. Et tu te dis, ah, je m'accroche parce qu'il y a ça. Les frères de Jephté vont être clairs. Tu n'as point de part dans l'héritage de notre père. Point. Ça a été décisif pour Jephté, il a fui. Plus rien ne le retenait. Et des fois, mon ami, Dieu va permettre que tu sois chassé. Dieu va permettre que tu sois rejeté pour que tu laisses ce qui te maintient dans le toxique. Oh, des fois, c'est facile de lâcher prise. Autant des fois, on est tellement accroché qu'on n'en partira jamais. Et c'était le cas de Jephté. Il a fallu que Dieu utilise l'instrument du rejet dans sa vie pour amener Jephté à décrocher. Ouais ? C'est pas si évident que ça de décrocher. Le lâcher prise. On parle souvent, il faut lâcher prise. Des fois, on ne lâche pas prise. C'est pas vrai. Et il faut que Dieu applique un instrument qui s'appelle le rejet dans nos vies pour qu'à un moment donné, on abandonne. Et si Dieu était en train de te dire ce matin, abandonne l'héritage parce que tu vas mourir avec. Abandonne l'héritage parce qu'il te maintient dans une situation toxique où tu es en train de mourir à petit feu. Autrement, et Dieu est capable de faire ça, d'appliquer l'instrument rejet pour que tu comprennes et pour que tu vives ce que Dieu veut t'amener réellement à vivre. Parce que ça, c'est le troisième point, et c'est peut-être le plus beau. Dieu va sauver Jephté d'un faux plan. Et si Jephté était resté chez ses frères, il ne serait jamais devenu le héros qu'il allait devenir. Il ne serait jamais devenu le héros de la foi qu'il allait devenir. Parce que chez ses frères, il allait être encore dans cette atmosphère spirituelle lourde, dans cette atmosphère où il est rejeté continuellement. Comment peut-on s'épanouir ? Comment peut-on devenir ce qu'on est appelé à être dans une atmosphère où on est rabaissé constamment ? Et c'est ce que Dieu a vu. Et quand Dieu applique le rejet dans la vie de Jephté, c'est pour le sauver. Et par moments, dans notre perception de ce que Dieu fait, dans la perception du rejet, on y voit une attaque de l'adversaire. Dieu est juste en train de te sortir de là. Parce que tu ne peux pas sortir toi-même. Combien c'est difficile par moment. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce que le jour où Jephté va sortir, en effet, on va voir un homme qui va commencer à construire sa vie. Oh, ça va être dur, ça va être compliqué, mais Jephté n'étant plus sous l'influence du rejet, va commencer à se construire, va commencer à rassembler des hommes autour de lui, va commencer à avoir un projet de vie, va commencer à devenir ce que Dieu l'appelle à être. Et c'est ça qui est pertinent dans la vie de, de Jephté. C'est ça qui est intéressant dans la vie de Jephté, parce que Jephté est un homme de Dieu. Et face au rejet, il n'a point rejeté l'Éternel. Tellement facile de rejeter l'Éternel quand nous-mêmes on est rejetés. Hein? Mais Jephté ne va jamais rejeter l'Éternel. Au contraire, et à mon sens, c'est en ça qu'il est cet homme de foi. C'est quand bien même il a vécu le rejet, il a fait confiance en Dieu. Et ce matin, je voudrais t'inviter à être cet homme, cette femme de foi, capable de dire, Seigneur, je vis le rejet, mais je vais faire confiance en toi. Je vais faire confiance en ton plan. Quand on est rejeté, mes amis, on a besoin de comprendre que Dieu a un meilleur plan pour nous. Oui. Quand on est rejeté de notre travail, quand dans une relation amoureuse, les choses ne se passent pas comme on voudrait que ça se passe. Quand on est rejeté par sa famille, quand on est rejeté par ses amis, quand on est rejeté par notre entourage, quand on peut être même rejeté de son église. Par moments, Dieu autorise certaines choses pour que nous vivions un plan meilleur. Et c'était le cas de Jephté. Dieu avait un meilleur plan. Et le plan que Dieu avait pour Jephté, c'est sur la vignette 3, c'est un plan juste magnifique, juste glorieux. Et il dit à Jephté, viens, tu seras notre chef. Ouais, ça c'est juste glorieux. Regardez comment Dieu fait les choses. Jephté est chassé comme un moins que rien. Quand Jephté revient, il est appelé à devenir chef. Waouh. C'est comme Joseph. Et c'est comme bien des hommes dans les Écritures. C'est comme bien des personnes, des héros de la foi que Dieu a saisis, que Dieu a permis qu'ils soient rejetés pour les relever et les amener à être au sommet. Le titre de mon message ce matin, et j'arrive à la fin. Du rejet jusqu'au sommet. Parce que Dieu est capable de faire ça dans les vies. Parce que Dieu est capable de prendre le rejeté et d'en faire le sommet et d'en faire le chef d'une armée. Moi, ce que j'aime dans la personne de Dieu, ce que j'aime dans ce que Dieu est capable de faire dans un cœur, dans un cœur et dans une vie, il prend le rejeté et il le met au sommet. Et ma prière ce matin, c'est que quand bien même tu vis la situation qui est la tienne, quand bien même tu vis le rejet, il y a du rejet sans doute dans beaucoup de vies ce matin. Le projet de Dieu n'est pas de t'enterrer, mais Dieu permet des circonstances de rejet par moment pour te faire rentrer dans son plan. Et c'était tellement le plan pour Jephté. Comme ça peut être le plan pour ta vie ce matin. Et il y a des choses qu'on doit percevoir et comprendre, ce que l'on perçoit par moment comme une attaque est juste une grâce que Dieu te fait de te sortir de là où tu ne pourrais sortir de toi-même. Pour t'amener à rentrer dans son véritable projet, pour venir et devenir ce que Dieu t'appelle à être, un héros de la foi, un guerrier vaillant. Et parfois, Dieu permet que ça passe par le rejet. Vous savez, je vais vous dire une grande vérité. Le rejet est le terreau dans lequel Dieu fait pousser et grandir les héros de la foi. Joseph, Moïse, David, il n'y a pas longtemps, je regardais les textes et je lisais l'histoire de David. Vous savez, la première fois qu'on parle de David, on comprend déjà d'entrée qu'il va avoir des problèmes, ce garçon. C'est Samuel qui va chez Isaïe, son père. Et Samuel, il va dans un but précis, oindre le futur roi. Aussi, Samuel dit à Isaïe, montre-moi tous tes fils. Et Isaïe présente à Samuel, 7 de ses fils. Tout sauf qui ? Déjà, il est rejeté. D'entrée. Et là, Samuel passe devant, c'est certainement lui, l'Éternel. Non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, non plus. Ah, non. Non. Il arrive au bout des 7 et il voit Isaïe. Il lui dit, mais est-ce là tous tes fils, Isaïe ? Non ! Il y en a un qui est dans les champs en train de garder les moutons. Tu n'y penses pas, il pue, il est dégoûtant. Je ne sais pas si vous avez déjà été berger, je l'ai fait un petit peu, mais forcément, vous êtes dégoûtant, c'est obligé. Quoi. Et j'imagine Isaïe en train de se dire, il y a le prophète, il y a le juge Samuel qui est là, il veut que j'aille chercher le petit dernier dégoûtant qui est dans les champs. Celui qu'on a oublié volontairement. De lui, Dieu va en sortir un vaillant guerrier, un héros de la foi. Comment ne pas passer à côté de celui que Dieu a élevé comme une faible plante ? La pierre rejetée des hommes, devenue pierre angulaire sur quoi tout repose. Jésus, du terreau du rejet, Dieu fait grandir ses vaillants héros. C'est peut-être ton cas ce matin. Et il y a peut-être au milieu de nous bien des Jephtés en train de se dire, mais je suis rejeté. Qu'est-ce que Dieu peut faire de moi? Ce que j'aime dans la personne de Dieu, c'est que Dieu, quand il va au supermarché des vaillants guerriers, des héros de la foi, il ne va pas les chercher dans les rayons bien agencés. Vous savez, vous avez toujours le coin des bonnes affaires, des invendus. J'ai même vu ça chez mon primaire dernièrement, vous avez les légumes que personne ne veut. C'est là qu'il va les chercher. Et je ne suis pas en train de me dégager de ça, c'est là que Dieu est venu me chercher, mes amis. Aux invendus, aux fruits et légumes abîmés. Et parce qu'il est Dieu, il les sublime. Et il en fait des vaillants héros, des héros de la foi. Je voudrais que l'équipe de louange puisse s'approcher. Et ce matin, je voudrais faire un appel, un vraiment très très court appel. Parce que Dieu est en train de dire sur ton cœur que le rejet n'est pas une fatalité dans ta vie. Dieu est en train de parler à ton cœur et veut t'amener à penser que peut-être ce matin tu dois faire un choix par rapport au rejet. T'as assez supporté le rejet ce matin. Tu l'as assez porté dans ta vie. Tu l'as assez subi. Peut-être tu te maintiens dans ce contexte et dans cette atmosphère spirituelle parce que tu as un intérêt dedans. Je ne sais pas quel est-il, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Dieu veut te parler ce matin par rapport à ça. Et il veut te dire, laisse tomber l'héritage. Laisse tomber la part qui te revient ou qui aurait dû te revenir. N'attends pas forcément que Dieu permette des circonstances où tu vas te sentir chassé. Il y a peut-être un choix que tu peux faire déjà de fuir le rejet et de te mettre à distance de celui-ci. Oh, c'est pas évident le lâcher prise, c'est sûr. Mais Dieu vient avec une promesse ce matin, celle d'un plan meilleur, d'une opportunité nouvelle, d'un héritage nouveau. Et le fait de te mettre à distance du rejet, peut-être un combat pour toi, une lutte, tu le sais, c'est, tu es dans une telle circonstance, une telle situation. Il y a cet appel de Dieu sur ta vie et Dieu te dit, fuis maintenant le rejet. Ou peut-être Dieu a permis au travers de circonstances que tu sois rejeté. Mais c'est à des fins de faire de toi le héros de la foi ou le vaillant héros que Dieu a vu en toi. Alors il n'y a pas de fatalité dans ta vie parce que Dieu peut te donner de construire, parce que Dieu peut te donner de bâtir, parce que Dieu peut te donner des projets, parce que si tu décide d'abandonner certaines choses pour marcher et vivre dans son plan, alors les choses se mettront en place dans ta vie. Elles vont te surprendre. Toi, le rejeté, tu pourrais finir au sommet. Parce qu'il y a quelque chose de puissant à être rejeté, mais choisi de Dieu. À être rejeté des hommes, mais choisi de Dieu. Et c'est de cela dont il est question ce matin. Il n'est pas question simplement d'être rejeté des hommes, mais il est surtout question d'être choisi de Dieu. C'est dans ce terreau que Dieu prépare ses guerriers. C'est dans ce terreau que Dieu prépare les hommes de foi, les héros de la foi, les vaillants guerriers. Alors considère aujourd'hui les deux parties de la question. Oui, tu es rejeté des hommes, certes, mais tu es surtout choisi de Dieu. Alors sois choisi de Dieu. Assume le fait que Dieu t'ait choisi. Assume le fait que Dieu t'appelle à faire peut-être une chose folle. Fuis! Fuis le rejet qui te maintient assujetti. Fuis le rejet. Quand bien même tu es obligé d'abandonner l'héritage qu'il a, quand bien même tu es obligé de l'intérêt qui te maintient dans cette atmosphère toxique, Dieu t'en retire pour vivre son plan, pour vivre ce qu'il a préparé pour ta vie. Alors ce matin, fais le bon choix. Fais le bon choix. Fuis. Mais fuis loin du rejet. ne laisse plus revenir à toi. Rejette le rejet pour que son plan devienne réalité dans ta vie et pour que tu découvres la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi. Alors ce matin, je voudrais faire un appel avec toi. Je voudrais vraiment, je vous invite mes frères et sœurs à garder nos têtes baissées et laisser ceux qui veulent fuir le rejet et dire: Seigneur, je ne veux pas simplement être rejeté des hommes, mais je veux être choisi de Dieu. Sois choisi de Dieu. Ne sois pas rejeté des hommes. Tu as pu l'être, mais Dieu veut t'identifier ce matin comme celui qui est choisi de Dieu. Alors là où tu es, lève-toi. Déjà des personnes qui se lèvent ce matin, levez-vous. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous parce qu'il y a peut-être des choix, des décisions à prendre bientôt. Il y a des réalités qui sont là. Il y a des intérêts qui sont là, qui font réfléchir et qui nous amènent à dire: c'est pas si évident que ça de lâcher prise, je suis d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a arraché Jephté de sa famille. Maintenant, tu peux aussi faire le choix de dire: Seigneur, je veux sortir du rejet, du contexte de rejet, et surtout ne l'emporte pas avec toi. Laisse-le en ce jour et ne le reprends plus. Fuis loin de celui-ci pour découvrir ce que Dieu t'appelle à être. Ce matin, on va prier ensemble. Je voudrais inviter l'Église à prier avec moi. Vous voulez bien ?